peut pas partir en affrontement avec le conventionnel, on veut pas, mais il faut qu'on arrive à dialoguer, à se comprendre, parce qu'il faut comprendre l'agriculteur aujourd'hui qui est en labour, qui est en système traditionnel, on ne bascule pas dans sa tête comme ça. Enfin, bon, je reviens sur l'expérience, sur la mienne, quand on a décidé donc, au niveau de l'Acuma d'arrêter de faire du labour, de ne plus travailler le sol, c'est un bousculement intellectuel terrible. Ça empêche de dormir, la première année qu'on fait ça. Après, et surtout à l'époque où on l'a fait nous, en 98, il n'y avait pas grand monde. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même, on peut s'appuyer sur des expériences réelles.
Jusqu'à présent, l'agriculture a fonctionné sur le modèle en fait, de la domination de la connaissance. La connaissance technique est arrivée par les techniciens, par les organismes divers et variés qui sont là pour faire des recherches sur les plantes, sur les produits, sur ce genre de choses. Là, quand on commence à attaquer ce domaine avec des gens comme Jack ou d'autres agriculteurs, c'est que en fait, le plus grand terrain d'expérimentation, il est fait par les agriculteurs.
En fait, il y a pas mal d'associations et de groupes de personnes, d'agriculteurs, d'acteurs principaux qui se regroupent en bout de champ, en bout de parcelle, et chacun va donner, va expliquer son expérience, ce qu'il a réussi, ce qu'il a raté, et ça a fait énormément évoluer non seulement les mentalités, mais les techniques culturelles. Voilà, on a besoin de ces discussions en bout de champ, tout le monde va développer son idée.
L'innovation ne vient pas d'en haut, elle vient d'en bas, et que ce sont des gens qui font, et qui font avec leurs moyens. Parce que la prise de risque, il n'y a pas de gros financement derrière. Ce sont les exploitants qui prennent le risque de changer de méthode, de faire différemment. Et c'est basé sur l'observation. C'est ça qui change, c'est que là, voilà, l'innovation, elle vient des agriculteurs.
Présentation des différentes associations qui sont autour de la table. Commençant par vous, Jacques Delozo. Vous êtes nouvellement président de l'association Arbres et Paysages 32.
C'est exact. Depuis la semaine dernière, nouveau président de l'association Arbres et Paysages 32. Une association qui est là pour promouvoir l'arbre en plein champ et les haies champêtres. L'arbre en plein champ, c'est l'histoire de mettre 50 arbres à l'hectare au minimum, de travailler avec des techniques culturales respectueuses de l'environnement, de mettre beaucoup de biologie dans le sol et de faire en sorte de travailler proche de la nature. Voilà. Cette association, on compte 10 employés, si je me souviens bien, avec des techniciens qui vont directement sur le terrain pour conseiller, pour proposer des formations de taille, pour mettre en place ces projets agroforestiers et ces haies champêtres, et des chargés de mission qui travaillent avec des comités de communes et autres associations.
Également autour de la table, des représentants de l'AOC Sol. Est-ce que vous pouvez vous présenter, me dire ce que c'est, nous dire ce que c'est que l'AOC Sol ?
Moi, je suis dans le canton d'Aurillac, sur la commune d'Esparron.
Jean-Claude Lajus.
Je suis ancien éleveur laitier. Je suis dans une zone d'élevage, donc pour des questions donc, de bâtiment, de mise aux normes. Donc, j'ai abandonné la production d'élevage laitière. Je me suis transformé en production céréalière. Donc, et je fais plusieurs types de cultures, donc du soja, du blé, de l'orge, de l'avoine, de la féverole, du colza, du tournesol, je crois qu'il y a 6 ou 7 cultures qui tournent donc, sur mon exploitation. Quoi. Voilà. Et je suis donc en semi-direct, travail simplifié depuis 1998. Et j'ai suivi donc toute l'évolution au travers de la chambre d'agriculture qui ont fait qu'aujourd'hui on a l'AOC Sol qui existe. Voilà. Et l'AOC Sol a mis elle a mis 10 ans quoi, à exister.
Moi je suis aussi céréalier. Mais
Roger Béziat, président de l'AOC Sol.
Proche de la vieille Toulzaine, en zone périurbaine. Donc sur les premiers contreforts du Lauragais, sur des pentes de 15 à 25%. et sur 170 hectares avec une rotation et une succession culturelle à 6 cultures sur des îlots de 20 à 30 hectares et un îlot fait entre 4 et 12 parcelles.
Jean Hamon.
Agriculteur à Montadès sur le canton de Lombès, exploitation céréalière uniquement. Et un travail simplifié, semi-direct depuis 2006, où c'est que M. Frédéric Thomas a ouvert les yeux sur l'agronomie des sols où qu'on avait perdu. Donc je fais du colza semence, de l'orge, du blé, des féveroles, du tournesol, maïs et soja. J'aime beaucoup d'interculture.
La OC Sol, c'est une association d'agriculteurs. Alors, OC Sol, c'est l'association occitane de conservation des sols. C'est né à l'automne 2009 et c'est né de la volonté d'agriculteurs en fait, qui pratiquent les techniques culturales simplifiées, le semi-direct. Un groupe de la Haute-Garonne, un groupe de l'Aude, qui ne se connaissaient pas et qui se sont rencontrés lors d'un salon en Espagne. Initié par des techniciens chambres d'agriculture à l'origine, qui accompagnaient ces groupes d'agriculteurs, chambres d'agriculture de l'Aude et de l'Haute-Garonne. Donc là, ce sont les aînés de cette rencontre. Et la volonté et le boulot de la OCSON, c'est d'arriver à créer des références locales, régionales, sur ces techniques-là. Et surtout, en fait, le nerf de la guerre, c'est d'arriver à faire rencontrer les agriculteurs sur le terrain, par organisation de journées thématiques ou de formations. Et après, c'est surtout essayer d'arriver à récupérer le maximum de données sur ces techniques-là et de communiquer donc, au plus grand nombre de personnes, faire savoir que ça existe. Et ben, on travaille avec Arbre et Paysage 32 depuis longtemps, parce que de toute façon, les deux choses se rejoignent.
Alors également, autour de cette table, Alain Canet, vous êtes impliqué dans l'association nationale d'agroforesterie, c'est bien ça ?
Oui.
Vous pouvez nous dire ce que c'est un peu l'agroforesterie ?
Alors l'agroforesterie vise à rééquilibrer un petit peu la donnée dans les champs et à remettre des arbres, pas n'importe où, ni n'importe comment, ni à n'importe quel prix, mais à disperser l'arbre dans le paysage, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que l'écosystème et l'agriculture a besoin d'arbres pour protéger et produire en même temps. Je vais parler de biodiversité, d'eau, de qualité de sol, de paysage et de productivité agricole. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un minimum d'arbres vital, je serais tenté de dire, les haies champêtres qu'on connaissait bien, et puis après les arbres au cœur des parcelles qui... On a la chance d'avoir un laboratoire de l'INRA de Montpellier qui est entièrement dédié à ça et qui nous montre qu'il y a des complémentarités intéressantes. Il n'y a plus de concurrence si on met les bons arbres dans les bonnes conditions, si on n'en met pas trop, comme l'a dit Jack. Il y a une complémentarité, une optimisation à la parcelle où on copie un peu le modèle de la forêt, des sols qui ont besoin de plantes, qui poussent tout le temps, etc. On ne laisse pas le sol nu, d'où l'interaction avec les gens qui font des techniques de semis sous couvert et des couverts permanents, ça c'est extrêmement important. L'arbre est un améliorateur de beaucoup beaucoup de choses, un pourvoyeur de carbone, qui pousse avec rien comme la plupart des plantes. Il y a 99,7 ou 8% de l'arbre qui est composé de nos polluants, qui est notre polluant principal qu'est le CO2. Donc l'Association française d'agroforesterie vise à redéployer, donc à être force de proposition comme la OC Sol dans son domaine, là au niveau national bien sûr, fédérer tous les gens qui travaillent sur ces techniques, que ce soit des chercheurs, des développeurs, des agriculteurs, des associations comme nous, faire bosser ensemble pour qu'il y ait une force de frappe, au bon sens du terme, cohérente dans la politique agricole commune, dans les programmes nationaux, et puis après, vous le savez sûrement, beaucoup de choses sont décidées en région, et on part du principe que dans un département, il y a 100 personnes, 100 socio-professionnels qui sont directement concernés par l'agroforesterie, parce que c'est les techniciens rivières, c'est les techniciens pêche, c'est les techniciens chasse, c'est les gens de l'agence de l'eau, de la direction départementale des territoires, de la préfecture, les chambres consulaires, les CUMA, j'en oublie, et de remettre un élément essentiel qui est parfois le moteur des équilibres et des microclimats, qui est l'arbre dans la tête des gens. On a pensé que l'arbre était en forêt. J'ai habitude de dire qu'il est au moins aussi utile, peut-être même plus, hors forêt. Et je dis et j'affirme que l'arbre, l'avenir de l'arbre est hors forêt, sans aucun doute.
Alors nous sommes aujourd'hui chez Jacques Dolonzo et vous travaillez en agroforesterie, en travail en technique culturale simplifiée. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous travaillez, quelles sont vos productions et votre façon de produire ?
Alors, on fait de l'agroforesterie, on est sur une agriculture biologique, on fait de l'élevage bovin, viande. On travaille avec l'agroforesterie et en complémentarité avec des techniques culturales qui impliquent des semis sous couvert, des intercultures. En fait, on fait en sorte que le sol soit toujours couvert. Alors, c'est une complémentarité avec l'arbre. C'est pour ça qu'on est associé avec l'AOC Sol, qui parle beaucoup du respect du sous-sol, de la biologie du sol, et nous, on parle beaucoup plus des arbres. Mais les deux entités sont indispensables et complémentaires. On a bien compris depuis plus ou moins longtemps que sans cette biologie du sous-sol, qui correspond à 1,5 à 3 tonnes de biologie, un chouette capital, un chouette cheptel à nourrir. Donc lorsqu'on exporte de la graine pour vivre, pour payer nos impôts, on restitue pas mal de biomasse pour nourrir cette biologie. Et l'arbre, à travers ce travail de couverture et de travail respectueux, on va dire, de cet environnement-là, va non seulement permettre de loger quelques auxiliaires de culture indispensables dans toutes les agricultures, hein, qu'elles soient biologiques ou qu'elles soient conventionnelles. Elles sont toutes confondues. Donc on va mettre en place ces habitats, ces auxiliaires. On va réintroduire de l'humus stable par le biais des arbres indispensables. Ce sont les seuls végétaux qui vont mettre de la lignine dans les sols qui elles-mêmes vont être digérées et transformées par les champignons qui n'auront pas été bouleversés par un travail trop grossier dans les parcelles. Le champignon, ce sont quand même des organismes qui vont se détruire si jamais ils sont laissés à l'air, donc un travail superficiel, et créer des humus stables, des agrégats, et éviter tout ce qui est érosion. Alors à travers ce travail simplifié et respectueux, et par le biais des haies champêtres et de l'agroforesterie, on élimine quasiment à 100% tout ce qui est érosion. On respecte surtout l'eau qu'on stocke durant l'hiver, moins d'évaporation, donc plus d'eau disponible pour nos étés de plus en plus secs. Et surtout, on respecte tout ce qui est organismes vivants et les hommes compris.
Et concrètement, à quoi ressemblent vos parcelles en agroforesterie? Comment ça se traduit au niveau de vos champs?
Ça se traduit par une densité de 50 arbres à l'hectare qui ont été plantés en linéaire tous les 22 mètres pour pouvoir utiliser nos outils. C'est des multiples de nos outils qu'on utilise pour le travail du sol. Espacés de 7 à 8 mètres, donc pour avoir une densité correspondante à ce qu'on désire. Et l'entretien est quand même assez aisé. Pour donner un exemple, à deux, on arrive à faire 5 hectares d'entretien pour façonner l'arbre. Ça s'apprend. L'association Arbre et Paysage 32 forme les propriétaires ou les futurs propriétaires à la taille de formation. Sur 5 hectares, on met 1h30 à peu près pour préparer la parcelle. Donc c'est un travail qui est assez rapide et qui devient, dans les années suivantes, très intéressant quand... À ce moment-là, on voit l'arbre évoluer. Et la mise en terre est quand même assez simple parce qu'on s'est équipé d'une machine qui plante à notre place. En fait, on intervient, bien entendu, et on arrive à avoir des débits de chantier assez importants, de l'ordre de pour l'avoir expérimenté, de 17 hectares en 8 heures de temps. Donc, techniquement, c'est rapide. Financièrement, on a un système de financement qui est au point, c'est-à-dire que 80% d'une devis est subventionné par le conseil général, le FEADER, le conseil régional. Donc économiquement, ça coûte quasiment rien aux futurs planteurs. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre et laisser pousser et surtout bien travailler les sols autour.
Quels sont les arbres qui sont plantés en agroforesterie, qui sont privilégiés par l'agroforesterie?
Vous pouvez répondre à plusieurs. En tous les cas, ce sont des arbres autochtones. Alors, comme je vous l'ai dit au début, on a les techniciens qui passent. Eux sont capables de vous donner les essences qui sont adaptées à notre terroir. Et en général, ce sont, pour citer quelques essences, des courmiers, alisiers, noyers, frênes, merisiers et autres. Ce sont des essences, ce sont des bois précieux. Dans cette démarche de plantation, il y a quand même un objectif à moyen et long terme de capitaliser plus ou moins. On peut imaginer que d'ici 10-15 ans, la parcelle augmente sa valeur. Si on veut un jour faire un prêt, eh bien, c'est un bon moyen de caution pour une banque.
Et pour la valeur bois des arbres.
Oui, la valeur de la bille. comme je vous ai parlé, qu'il y avait une taille, donc il y aura une bille de formation qui aura été préparée préalablement. Il y aura du bois pour former le houppier qui servira de BRF et du bois de chauffe qui va donc être utilisé avant qu'il y ait, au bout de 80-90 ans, une taille de la bille qui sera, pas pour celui qui aura planté, mais pour la génération future, un capital assez important.
Où en est l'agroforesterie dans la région, en Haute-Garonne et plus largement Midi-Pyrénées ou Gers, parce qu'on est aujourd'hui dans le Gers?
Eh bien, elle se porte pas trop mal. Alors, les chiffres, c'est Alain qui va les donner. Je le sais, moi, à peu près, mais lui, il les connaît beaucoup mieux.
Alain Canet.
Alors, on a planté, on a dû planter à peu près en Midi-Pyrénées 500 hectares dans 2 ou 3 ans. On a un programme de développement de 700 ou 800 hectares à venir sur ces nouvelles formes. Là, on est sur des formes complètement nouvelles par rapport à ce qui se faisait. Enfin, nouvelles, elles sont à la fois traditionnelles et nouvelles. Il s'en est beaucoup planté dans le Gers et on a mis en place avec les autorités compétentes précitées un plan de développement de l'agroforesterie en Midi-Pyrénées parce que potentiellement ça peut intéresser beaucoup plus de monde que ce que l'on croit. L'agroforesterie, c'est au sens large, c'est tous les arbres champêtres. Ça veut dire que si vous plantez un noyer double fin, c'est-à-dire qui fait à la fois des noix et du bois d'œuvre au-dessus d'un parcours de canard, vous gagnez deux fois mieux votre vie sans polluer les nappes d'eau avec les effluents d'élevage, par exemple. Donc c'est pareil pour tout type d'animaux. C'est un peu moins simple avec les vaches parce qu'il faut beaucoup protéger les arbres. Ça marche bien en grande culture. On a mesuré que sur certains causses du Larzac, si la température montait d'un degré et demi ou deux, on perdait la moitié des plantes herbacées. C'est-à-dire que le roquefort allait changer de goût, en volume et en goût. Donc quelques arbres dispersés pour amortir ces chaleurs-là font qu'on gardera peut-être... Et c'est pareil pour les poulets et c'est pareil pour beaucoup de choses. Donc on voudrait, dans le respect des paysages, dans le respect des pratiques, des filières, etc., etc., maintenant que la technique est au point, on est en train de labelliser le métier de conseil et surtout de plantation, on voudrait diffuser à plus grande échelle, puisque la grande culture, c'est une chose, mais en élevage, il y a énormément d'élevage. Au-delà de la directive, il y a une directive cadre en cours d'écriture sur le confort animal, il y a énormément d'animaux qui souffrent du chaud, qui souffre du froid, qui souffre du vent. Et l'idée de l'agroforesterie, et ça peut se résumer comme ça, quand vous avez un poulet qui est correctement ombragé et protégé du chaud et du froid, il produit plus, il produit mieux, il consomme moins d'aliments, il consomme 6-7% d'aliments en moins, il produit 7-8-10% de pois vifs en plus, avec moins de pathologies, moins de stress, donc moins d'antibiotiques quand on en met encore, etc. Et puis pour faire très cru, avec ce qui s'appelle communément la merde de ces animaux-là, vous faites du bois d'œuvre. Et ça, c'est important. Et quand Jack parle de capital bois, je serais tenté de dire, et ici autour de la table, il n'y a que des convaincus, je parlerais de capital sol. Capital sol, le produit qu'on va retrouver dans notre assiette, il sort d'un sol. Et s'il sort d'un sol vivant, un grain de blé qui pousse, une plante, en l'occurrence du blé, qui pousse dans un sol vivant, il pousse mieux, avec moins de problèmes de pathologies, etc. Donc, l'agroforesterie et les techniques de couverture de sol, ça vise une optimisation, ça vise à faire, les Anglais appellent ça le gagnant-gagnant. C'est-à-dire, on protège mieux notre environnement en produisant tout autant, si ce n'est plus. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important de dire qu'on peut faire les deux. Pour l'instant, on est encore dans un monde où on voudrait cloisonner, on voudrait compter les petits oiseaux d'un côté et puis regarder les productivistes de l'autre. Non, il faut que ces deux mondes se rapprochent, comprennent que la nature est assez bien faite et qu'on peut combiner la protection de la nature et la production au milieu. Et on a tout intérêt... L'avenir de l'arbre est hors forêt, les enjeux, les questions environnementales dans des paysages comme les nôtres qui sont cultivés dans tous les sens, elles sont au cœur de l'agriculture et la biodiversité pour l'agriculture dans le sol. Souvent quand on parle de biodiversité, on parle d'éléphants ou de tigres, enfin de choses qui nous dépassent totalement. La biodiversité, c'est dans le sol et c'est là que ça se passe et c'est tout ça qu'on voudrait remettre sur le devant de la scène. Je peux citer le modèle de l'arbre. Le modèle de l'arbre, il améliore son sol tous les jours. On ne l'arrose pas, on ne le bine pas, on ne le désherbe pas, on ne l'engraisse pas, on ne lui met pas du compost ou je ne sais quelle substance au pied. Et tous les jours, le sol est plus riche dessous. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui faire, qu'on sait sortir de la forêt. Et on essaie de travailler ensemble pour faire comprendre ce message-là, puisque tout le monde sait que les rendements stagnent quand ils ne baissent pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et les taux de matière organique dans les sols qui ont été créés principalement par les arbres sous nos latitudes sont aujourd'hui épuisés. sauf dans des cas où, encore une fois, les gens qui font ces techniques de semis sous couvert, ils font remonter. Mais la plupart des agricultures, 95% des agricultures aujourd'hui, toute forme d'agriculture, continue à appauvrir les sols, ce qui est absolument dramatique. Et il n'y a pas de remède autre que les plantes pour protéger, nourrir les sols et la population éventuellement.
Alors les sols, c'est quelque chose que l'AOC Sol est très attaché, notamment les sols vivants. Comment développer, on a parlé là des arbres, comment au niveau des techniques culturales, développer la vie du sol concrètement dans les champs? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'AOC Sol? Quelles sont les techniques dont vous faites la promotion?
Concrètement, c'est... Et tout simplement, Roger
Béziat, c'est président de l'association.
À avoir des sols qui soient systématiquement couverts, et couverts avec des plantes vivantes. Donc le but, c'est quand même d'avoir remonté les taux de matière organique et d'avoir de la nourriture en surface et dans le sol pour alimenter l'activité biologique. Donc dans les premiers temps, ça va être de diminuer les profondeurs de travail du sol pour essayer en fait de moins perturber l'activité biologique. Certains agriculteurs, plus ils évoluent dans la technique, moins ils font de travail jusqu'à arriver à ne plus travailler du tout le sol. Et en fait, la capacité du sol et la structuration du sol se fait par les plantes et par l'activité biologique. Celle qu'on voit le plus, ou qui est la plus visible, c'est les vers de terre. Donc, quelqu'un qui passe d'un système conventionnel, labour et autres, et qui va arrêter ou diminuer ses profondeurs de travail du sol, va commencer à revoir en fait davantage de vers de terre à surface. Donc c'est tout ça qui, au bout, on va dire, de 7 à 10 ans, fait qu'on va revenir à avoir des sols vivants et qui vont être structurés par les racines des plantes, par les plantes donc, qu'on cultive, qu'on va récolter, mais aussi par les couvertures de sol dans les intercultures. Le but, c'est de jamais laisser le sol nu et de toujours avoir de la nourriture dessus. C'est comme un élevage, hein, quelque chose... quand il n'y a pas à manger, mais l'élevage il s'échappe d'une clôture quand il n'y a plus rien à manger. Mais si vous voulez, l'activité biologique et les vers de terre, quand il n'y a plus rien à manger dans un champ ou ça a été perturbé par un travail du sol, un retournement comme un labour, en fait, l'activité biologique diminue et puis ne reviendra pas. Et donc, c'est les sols qui meurent. Ce sont des techniques qui, les labours, diluent la matière organique dans l'horizon du sol, alors que quand on ne perturbe plus le sol par le travail, on garde la matière organique en surface. Et donc on protège le sol de l'érosion, mais en même temps, si vous voulez, on alimente et on remonte la qualité de fertilité du sol en faisant moins.
Alors, vous parlez de couverture du sol, donc ça veut dire de garder les résidus de culture précédentes. Et vous avez aussi parlé d'interculture, des cultures qui ne seraient pas récoltées.
Voilà, c'est ça. On peut avoir plusieurs versions. Effectivement, quand on est uniquement céréalier, on va utiliser des intercultures et des couvertures de sol qui ne sont pas récoltées, ou à la limite, quand elles sont récoltées, mais c'est parce qu'elles sont montées en graines, et qu'on va pouvoir utiliser ces graines pour pouvoir re-ensemencer une autre couverture de sol. Dans le système élevage, ben en fait, ça permet aussi de valoriser ces intercultures pour nourrir les animaux.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de plantes qu'on se visualise un petit peu?
En termes de culture, ben, toutes les cultures s'adaptent plus ou moins, on va dire, au non-travail du sol, hein, au semi-direct ou au travail superficiel. Ce qui pose un petit peu plus de soucis ici dans la région Midi-Pyrénées, c'est la culture du tournesol, qui est un petit peu plus délicate à réussir en semi-direct. Mais après, en plante de couverture, 9 fois sur 10, on va essayer d'intégrer des légumineuses dans les mélanges. D'autres cultures, des plantes à effet allélopathique. Si on veut diminuer l'utilisation en fait, de désherbants ou autres, des associations de plantes ou des plantes qui ont la faculté en fait de nettoyer les parcelles. On va penser à l'avoine, on va passer à du sarrasin, là on va commencer à avoir quelques essais avec du lait. Ce sont des plantes qui empêchent les autres de germer et qui maîtrisent le salissement du sol. Donc voilà, après on peut avoir des plantes avec des explorations racinaires un peu plus agressives. On va penser à des plantes pivotantes comme des colzas, des moutardes, ce genre de choses.
voire du sorgho, qui est une plante qui est cultivée pour la nourriture pour les animaux, mais qui est, peut être une excellente plante en fait, de couverture de par son exploration racinaire. La difficulté dans le sud-ouest, après récolte, en été, et des fois, une plante qui ne reçoit pas d'eau, elle a du mal à se développer. Alors que si on prend effectivement des plantes comme le sorgho, qui sont des plantes méditerranéennes, ce sont des plantes qui arrivent très bien à faire suffisamment de masse et d'exploration racinaire en conditions sèches.
Pour revenir à votre ferme, Jacques Dolozo, vous êtes également en agriculture biologique. Comment ça se traduit sur votre ferme, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui font du non-travail du sol?
Oui, c'est très simple. C'est compliqué par sa simplicité, en fait. Nous, en interculture et en culture associée, on emploie beaucoup de légumineuses pour cet azote. Cet azote atmosphérique qui est directement fabriqué par les nodosités de ces légumineuses. On emploie aussi le système prairial. On sème d'autres légumineuses, luzerne, trèfle, esparcette, qu'on va laisser en place durant 3 ans. Mais durant ces 3 années, il y aura, donc pour la première année, 3 coupes et automatiquement une coupe qui est restituée au sol pour le reste de biologie. Donc on exporte pour vivre et on restitue au sol. La deuxième année, comme on a un peu nettoyé la parcelle, on met une céréale. La deuxième ou la troisième année, sur une parcelle qui a été fauchée durant un an ou 2 ans, donc quasiment propre, on met une céréale qui va bénéficier de restitution d'azote, de biomasse et de cette plante vivante qui va toujours fabriquer un peu d'azote. On part du principe que ce serait dommage de ne pas utiliser de l'azote disponible pour une céréale au lieu de laisser cette légumineuse profiter toute seule, surtout si le sol est déjà pourvu d'azote, elle en fabriquerait beaucoup moins. Donc on profite de ce surplus d'azote pour nourrir cette céréale.
Et alors concrètement, c'est semer dans la
légumineuse. Semer dans un couvert vivant, à peine scarifié. Scarifié, c'est un travail très superficiel, 3 cm en moyenne. Donc on abîme le sol, on crée quasiment un faux semis. 2 ou 3 jours après, on sème directement dessus. Donc on a la luzerne ou le couvert vivant, on a la céréale qui va pousser, le cycle végétatif est légèrement décalé, on emploie des pailles assez longues, de façon qu'il n'y ait pas de concurrence avec la lumière, et la culture principale domine. Et dans cette culture principale, notamment cette année, on s'est permis de l'associer avec une autre légumineuse, une féverole, qui a l'avantage de, elle aussi, fabriquer de l'azote, mais en plus d'être triée, triable facilement, et moissonnée aisément associée.
Parce que la féverole a une graine beaucoup plus grosse que
le blé, que la céréale. Ça, c'est un des exemples, il y en a bien d'autres, hein, sur d'autres modèles, mais la ligne de conduite, c'est quasiment celle-ci. On sème le tiers de l'exploitation dans un couvert vivant. Et le reste, c'est couvert en associé. Et ensuite, l'autre tiers, c'est des couvertures prairiales, vu qu'on a un élevage. Et c'est une rotation ainsi.
Là, vous êtes en conversion?
Non, fini la conversion. Là, on est en bio depuis cette année. Donc là, on a des prix qui vont légèrement augmenter. Il est évident qu'au début, il y a quand même une aide à la conversion biologique qui aide pas mal à cette conversion et à vivre de cette profession. Mais on s'aperçoit qu'en associant, il y a toujours une culture qui sort son épingle du jeu, il y a toujours une destination, proportionnel, c'est très limité, on s'en sort parfois à un semi, un passage d'air cétrie et une moisson. Donc ça coûte pas très cher, pas la totalité de l'exploitation, mais un bon tiers. Donc en frais de fonctionnement, c'est très réduit. Et on s'applique à trier nous-mêmes nos graines. Donc on a des impuretés. Les impuretés sont souvent des graines cassées dont on se sert pour nourrir nos bêtes. Donc ça passe plus une impureté. Et on livre du grain quasiment propre et avec une meilleure revalorisation du produit. Et ça nous permet de tirer des marges, même en culture biologique, très, très correctes.
La transition s'est bien déroulée, vous êtes satisfait?
La transition s'est bien déroulée dans ce système-là parce qu'on commençait à le maîtriser un peu. On maîtrise partout, hein. On est encore en train de chercher des solutions, mais on avait déjà 2 ans, 3 ans de recul, donc il y a certaines pratiques qu'on commençait à non pas maîtriser, mais à avoir bien exploré. On savait ce qu'il ne fallait pas faire. Donc c'est un système dans un milieu agroforestier, techniculturel simplifié et semi-bio qui fonctionne techniquement, et économiquement, ça c'est prouvable.
Et vous parlez de, d'évolution et de recherche, et de quelles sont vos recherches actuelles, ou vos pistes que vous aurez envie d'explorer?
Oui, il y a plein d'horizons à explorer, dans des associations, dans les variétés, dans les... le facteur limitant, c'est l'eau. Moins on bouleverse le sol, et moins on aura d'incidence sur l'eau. Mais le climat change. On arrive sur des climats un peu... déstabilisé, où il y aura sans doute, d'après les prévisions, des précipitations en début d'année et des sécheresses style 2003 en seconde période d'année. Donc il faut s'adapter à ce nouveau climat. Donc au niveau expérimentation, on n'est pas au bout de nos peines et on fait tout ce qu'on peut. Nos expériences durent un an. Quand on fait un essai, c'est pour l'année. Donc s'il a raté, ben, il faut jongler. Et l'avantage de cette technique, c'est en associant, on a moins de risques d'échouer. En monoculture, c'est beaucoup plus délicat, quoi. Mais en associant, comme on fait, c'est minimum 2-3 types de variétés de culture. Et dans un système élevage, bien entendu, parce qu'une parcelle qui aurait échoué peut être transformée et changer de destination. Ça permet d'avoir un système beaucoup plus souple, surtout en ces temps un peu climatiquement perturbés.
Tout à l'heure, on a parlé d'arbres et d'essences d'arbres. Vous avez surtout parlé d'arbres champêtres, un petit peu du noyer. Comment on peut s'intégrer les arbres fruitiers dans les systèmes agroforestiers? Est-ce que c'est quelque chose qui est développé en agroforesterie, par exemple, par l'association française?
Alors oui, bien entendu, ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir quelques fruitiers. Si on peut imaginer même plus... Plus que ça, on peut imaginer un système d'une agroforesterie de fruitiers. Ce n'est pas encore dans les tuyaux, parce que l'administration n'a pas encore autorisé de mettre des fruitiers dans l'agroforesterie.
C'est-à-dire ?
Eh bien, on peut planter des arbres autochtones, mais pas de fruitiers. Il ne faut pas me demander pourquoi. Nous, on attend que ça. Peut-être un jour, ça viendra. Mais si on imaginait, dans ce système culturel dont on vient d'expliquer, sur une agroforesterie fruitière... On peut aller encore plus loin avec du maraîchage entre chaque arbre. Là, on optimise au maximum la surface. Et là, on va nourrir du monde. Énormément de monde.
L'agroforesterie fruitière, est-ce que c'est...
Alors, c'est pas dans les tuyaux parce que... bon, d'une part, c'est pas... Malheureusement, mais c'est pas la demande la plus importante qu'il y ait parce qu'on est dans un système où tout est très cloisonné encore. On est arboriculteur et qu'on produit de l'abricot et de la
pêche. Alain Canet, directeur de l'association Arbres et Paysages.
Quand on est céréalier, on produit un autre. Et il est évident qu'il doit y avoir des croisements qui se font, puisque c'est extrêmement performant de mélanger. Mais tout est organisé aujourd'hui dans la spécialisation. Donc on a un peu de mal à en sortir. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que quand on est céréalier, et qu'on plante à grande échelle, on n'a pas le temps de diversifier, bien qu'il faudrait. L'idée de l'agroforesterie, c'est aussi de relocaliser de la production, et plutôt que l'abricot vienne de l'autre bout du monde, de le produire chez nous, petit abricot, parce que je pourrais dire autre chose, mais ça veut dire créer de l'emploi derrière. Et ça va nous demander un peu de temps, puisque si on fait de la céréale, plus de la vigne, plus des abricots, plus... ça va très bien marcher. Et ça a eu marché, même les Romains maîtrisaient déjà ça très bien, ça marchera. Mais ça veut dire qu'on va créer beaucoup plus d'activités, donc d'emplois, donc de filières, et tout ça, il faut qu'on le mette en place. Donc, pour l'histoire, les arbres fruitiers greffés ne sont pas acceptés pour l'instant dans la mesure qui pilote l'agroforesterie. Mais je serais tenté de dire que c'est un épiphénomène au regard de ce qui va se passer dans les années qui viennent, puisque quand on négocie, on pose un certain nombre d'éléments sur la table et le principe de négociation, c'est qu'on ne passe pas tout. Tout n'est pas, et on n'a pas réussi à faire passer les arbres fruitiers greffés, notamment parce que les forestiers nous ont dit qu'on a besoin de bois d'œuvre. Quand on a vu que les fruitiers allaient tout bloquer, on a dit bah, effectivement, on ne met pas les arbres fruitiers greffés puis on reviendra par la petite porte. On mettra le dossier sur la table. Mais c'est vrai que les opportunités, pour l'instant, pour des raisons de filière, d'échelle, de diversification sur les fruitiers, elles sont plus en lien avec le maraîchage. Mais c'est une évidence. C'est-à-dire, il faut arrêter de faire traverser des fruits, ceux qu'on peut produire ici, autour du monde. On a au Conservatoire d'Aquitaine des essais qui montrent que dès qu'on met un arbre fruitier dans une haie, il n'a plus de maladie. Le même arbre fruitier, dans les mêmes conditions, on le met dans une haie, il attrape plus tous les parasites qui passent quand il est en monoculture. Donc on est bien dans cette approche-là où on va relocaliser, diversifier, se faire parler. On a des essais dans l'Aude avec des amandiers. En agroforesterie, les amandiers produisent autant que quand ils sont en double densité, en monoculture. Simplement stimulés par d'autres plantes avec plus plus de diversité, donc des insectes auxiliaires qui viennent épurer des parasites, etc. C'est l'agroforesterie en grande culture, c'est un vrai sujet, en élevage, en maraîchage, et puis la vigne. On arrive aussi à remettre des arbres fruitiers dans la vigne et avec des effets qui sont très intéressants. Les arbres fruitiers, tels que Jack les décrit, ils ont aussi un avantage, c'est qu'on les taille facilement et qu'ils ont un faible encombrement par rapport à la valeur ajoutée. Et ça, c'est important de se dire que j'ai une grosse valeur ajoutée avec un arbre qui prend peu de place. La lisier terminale, comme le cormier, ça se monnaie et ça se monnaiera à des prix très intéressants.
Alors, autre thématique que je voulais aborder au niveau des arbres, c'était les arbres fourragés. Est-ce que c'est quelque chose qui est développé ou qui est aussi dans les tuyaux ou...
Oui, indirectement.
Les arbres pour nourrir les animaux.
Pas spécialement, non. On a des arbres fourragés avec certaines essences qui peuvent servir à nourrir des bêtes au besoin.
Comme par exemple
le frêne, tout ce qui est feuillu, le merisier, le...
Là, ça sera frêne, chêne, érable,
chêne, érable,
en fonction des sols sur lesquels on va planter, parfois châtaignier.
Voilà. Dans notre exploitation, bon, on a assez de surface en herbe, donc on n'a pas ce souci-là. Mais on peut imaginer sur quelques exploitations où il y aurait moins d'herbe ou plus difficilement produit. On pourrait difficilement produire de l'herbe, l'arbre fourragé à sa place, oui. Il n'y a pas que l'arbre fourragé, on a aussi, dans notre exploitation, envisager de mettre 2 hectares d'arbres têtards, d'arbres trognes, qui vont être mis en place 2013, et ces arbres vont non pas nourrir des bêtes, mais nourrir le sol. Ce sera une bille de bois façonnée, et ensuite, tous les 2, 3 ou 4 ans, la bille de bois sera coupée, et broyée, restituée au champ, ou sur un paillage, ce sera du trogne.
Alors, arbre trogne, c'est aussi une thématique importante d'arbres et paysages 32, je crois.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ? Exactement.
Mais c'est l'arbre fourrageux.
C'est
une partie de la trogne.
C'est ou fourragé, donc en donnant à manger aux bêtes ces branches-là,
ouais.
Et ce qui n'est pas digéré de façon à restituer au champ, et où les branches sont directement passées au broyeur BRF et restituées au sol. C'est un arbre qui va être, tendu tous les 4 ans.
À la même hauteur.
Tout le temps à la même hauteur, à 2,50 m, 3 m, 2,50 m du nubi. Et sans détruire le développement de l'arbre, tout en gardant une belle bille de bois, il va se développer quand même.
C'est une forme très intéressante pour tout le monde, puisque là aussi, l'arbre têtard, donc la trogne, a la capacité de se régénérer, de bien se régénérer. Donc on met un arbre. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'on met un arbre qu'on ne coupe jamais au pied. C'est-à-dire qu'on produit du bois sans jamais couper l'arbre. Ça, c'est très intéressant de voir que la machine arbre remonte et on fait une forêt sur pilotis. C'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir au ras du sol, on coupe l'arbre au ras du sol et puis on la met en hauteur. Donc on garde un arbre qui a 30 ans, mais il produit comme un arbre qui a 30 ans très rapidement. Donc ça produit une grosse quantité de bois très vite. Alors après, on en fait du fourrage, on en fait du BRF, on en fait du bois énergie. Peut-être qu'on en fera un peu de méthanisation plus tard. À mon avis, on en fera des isolants et même du bois de travail, parce que les besoins en bois vont être tels que... on négligera aucune piste. L'avantage des arbres têtards, c'est qu'ils produisent beaucoup, ils structurent le sol, on ne les coupe jamais, et puis quand on les taille, ils réitèrent leur système racinaire. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à injecter beaucoup de carbone dans les sols, et puis quand on les taille, ils vont rééclairer les parcelles. On pourra même les mettre en grande culture, on pourra même les mettre un peu plus serrés, parce que tous les 4-5 ans, on les taille complètement. Donc, il n'y a pas de problème de machinisme, et puis il y a de la lumière qui rentre à fond dans les parcelles. Donc, on a mis l'arbre têtard, on a un modèle, à l'INRA, on a un modèle où on met des arbres. C'est de l'informatique, mais c'est quand même très puissant, ça prend en compte des quantités de paramètres invraisemblables. Ça remplacera jamais le bon sens paysan des ordinateurs, soyons clairs. Enfin bon, quand on a mis beaucoup de choses, et quand on met un arbre têtard dans le modèle développé à l'INRA de l'agroforesterie, ça donne des rendements exceptionnels, parce qu'on cultive encore plus normalement dessus, et on produit toute cette biomasse, puisque c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Ça veut dire que si on est en technique de simplifier avec interculture, ben on produit 2 cultures par an, pour faire simple, plus l'arbre têtard. Ça veut dire que d'une parcelle où je faisais du blé, ben dans quelques années, je fais du blé, plus une févrole, plus tout ce qui va avec, plus du bois. C'est-à-dire que je multiplie par 3 la productivité de biomasse d'une même parcelle. Je reviens à l'hectare, sur un hectare, je multiplie par 3 la productivité. Et je diversifie et je multiplie par 3 tout en continuant à améliorer énormément mon sol. Et c'est ça le message final, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on produise plus et mieux, parce que le sol ne peut plus attendre, le vide, hein. Je crois que ça a été suffisamment dit. Et avec l'arbre têtard, là, c'est vraiment c'est l'excellence. Donc on développe effectivement un programme, ça c'est l'association française qui le porte, de plantation d'arbres têtards dans les champs en France. Là on démarre avec un premier programme de 4000 arbres tout de suite, là, qui est disponible. Et puis j'espère qu'il se reconduira très vite pour faire prendre conscience. Et puis c'est pour mettre à mal quelques idées reçues sur les arbres qui poussent vite, tels les eucalyptus ou tels les catalpas ou je ne sais quel. On a toujours le fantasme d'un arbre qui va faire la révolution, qui va être mieux que l'autre. Non, il y a des arbres qui sont associés entre eux, qui sont très intéressants. Et puis contre les taillis à courte rotation qui visent à planter des saules ou autres acacias qu'on récolte à la moissonneuse, sauf que ces plantes-là, en règle générale, elles épuisent énormément les sols. Donc la réponse, c'est de dire, mais il faut des arbres qui protègent les cultures et qui protègent l'écosystème, qui protègent les masses d'eau et qui enrichissent les sols tout en produisant du bois. Voilà un petit peu et l'arbre têtard, c'est vraiment une forme. Je n'oublie pas de rappeler qu'au cœur de la tête se creuse, hein, il y a du bois d'œuvre dessous, c'est du bois tout simple, la tête se creuse et dans cette tête-là, on a des bourdons, des abeilles sauvages, des chauves-souris, tout un tas d'auxiliaires, des petits rapaces qui sont très très précieux à l'agriculture.
Ben, merci à tous.
Merci à vous.
En gros, on est tous producteurs de sol.
Voilà.
Et éleveur. Et éleveur. J'ai oublié de préciser dans ma présentation que je suis éleveur de vers de terre.
Ça, c'est important. Il faut voir les choses de façon totalement, totalement transversale aujourd'hui si on veut s'en sortir. Et il y a des petites solutions, mais qui, assemblées les unes aux autres, sont très performantes. Tu t'es construit un
petit paradis. La nature a horreur du vide. Donc la nature, d'elle-même, couvre le sol. Que ce soit par des arbres, par de l'herbe, par des... ce qu'on veut, quoi.
Et
des résidus de récolte.
Et de l'ambroisien.
Le but, c'est de couvrir le sol. Quand il y a le sol qui est couvert, il y a de la vie dessous parce qu'il y a de l'ombre, il y a de l'humidité et la température est moins haute que quand le sol n'est pas couvert.
On peut aussi faire de l'agriculture sans élevage avec l'agroforesterie, puisque les humus dont on a besoin, ils seraient renforcés par les arbres. Et ça veut dire qu'on n'est pas obligé de... Bien sûr que les systèmes diversifiés sont certainement les meilleurs à tout point de vue, à commencer par l'économie, avoir un peu de tout, évidemment. Mais on peut aussi se dire qu'on a une agriculture pour un céréalier qui continue et qui veut être céréalier et qui ne veut pas. On peut avoir une agriculture qui n'a pas besoin d'élevage. C'est pas le fumier qui sauvera les sols, mais le compost.
Il faut couvrir le sol, il faut protéger. C'est-à-dire la couverture du sol, c'est la toiture d'une maison. Si une maison, le vent il fait envoler les tuiles, après dessous on est mal. Quoi.
Ça sèche.
C'est exactement pareil pour le sol.
Il ne faut rien attendre d'en haut. Par contre, il faut pousser pour que le haut donne le micro à tout le monde et que le micro soit dans les bonnes mains pour que le message passe. De passage sur terre. Toi et moi. De passage sur terre. Dans l'ambulance ou la misère.
Attention au seuil de saturation, c'est plus de la science-fiction. Allez viens, cette nuit, on se fait la belle étoile. Laissons-nous glisser dans la mer. Et sur sa peau fluorescente, je nage entre la lune et la terre. De passage sur terre.
passage sur terre. Dans l'opulence ou la misère, toi et moi, de passage sur terre.